Il est 5h sur Europe 1.
Ça démarre tardivement, mais c'est un départ rapide. Les gens se sont décidés à la dernière minute. Beaucoup de Français, mais il y a aussi la Hollande qui repart fort.
Les Hollandais sont de retour au camping. Les Français et les Allemands avec eux, signe que des vacances à peu près normales sont sur le point de démarrer et qu'on peut à nouveau voyager en Europe. Petit point noir tout de même pour les automobilistes. Le prix de l'essence qui a nettement grimpé ces dernières semaines, suivant la hausse des cours mondiaux du baril de pétrole. Et puis ce n'est pas courant, une perquisition au ministère de la Justice. C'est le ministre lui-même qui est l'objet de soupçons de conflits d'intérêts. Éric Dupond-Moretti, explication dans quelques minutes sur cette affaire.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin, et puis nous serons en Normandie chez notre éleveuse pour le dernier rendez-vous des doigts dans l'assiette. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a vérifié, nous sommes bien le 2 juillet, premier vendredi de ce mois estival, synonyme des premiers départs en vacances. Et que ce soit pour raison sanitaire, pour la simplicité ou pour soigner leur budget, nombreux sont les Français à avoir choisi de rester en France pour leur congé, 83%. Selon un sondage, on s'attend donc à une saison record. C'est ce que Frédéric Michel est allé vérifier pour Europe 1 dans un camping de Saint-Raphaël dans le Var.
Estelle Caravanine, Jessica, bonjour. Ce serait pour quelle date ?
Enfin, le téléphone n'arrête pas de sonner dans cet établissement familial implanté depuis 45 ans, au cœur de l'Estérel, à 5 minutes de la mer. On a retrouvé le sourire après une année très difficile. Les réservations pleuvent. Sabine Suppens.
Ça démarre tardivement, mais c'est un départ rapide. Les gens se sont décidés à la dernière minute. Beaucoup de Français. Mais il y a aussi la Hollande qui repart fort. Les Allemands aussi.
Ça va, tout va bien ?
À quelques heures de l'arrivée des premiers vacanciers de juillet, Aurore Laroche, la directrice de ce camping haut de gamme, veille à ce que tout soit prêt.
Là, l'équipe d'animation qui est juste là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Les affiches. On se prépare, ça y est, ce week-end, nous allons être quasiment complets. Nous avons 495 emplacements. On a eu pendant des mois pas un coup de téléphone, pas une réservation. En fait, il y a eu réellement un déclenchement des réservations à partir du moment où le président de la République nous a donné l'espoir et la réouverture sur les vacances.
Prêt à démarrer la saison, les professionnels du tourisme craignent qu'une seule chose désormais, que le variant indien viennent gâcher l'été.
Frédéric Michel.
Alors on entend que tout est prêt, il reste à attendre une météo ensoleillée. Hein. Vous voyez qu'avec Laurent Cabrol, c'était pas gagné. Mais pour ceux qui prennent la route, la facture de carburant sera sans doute la mauvaise surprise du voyage. Maud Descamps.
Avec le litre de samplon 95 à 1,55€ et celui de gasoil à 1,43€, la facture s'annonce salée si vous vous apprêtez à traverser la France au volant. Sur un Paris-Nantes, par exemple, il vous faudra débourser 5,20€ de plus que l'an dernier à la même période. Sur un Paris-Nice, ce sera 12€ de plus. Pour Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, même si le prix du brut venait à se stabiliser, il n'y aurait pas grande différence à la pompe.
On peut avoir une stabilisation des prix du brut. Si tel est le cas, à ce moment-là, les prix à la pompe resteront stables. Étant donné qu'on a à peu près 60% de taxes aussi bien sur le samplon que sur le gazoil, l'impact du prix du brut ne se fait ressentir que sur les 40% de prix hors taxes.
Mais la flambée des prix ne devrait pas empêcher les stations-service de faire le plein si les chiffres de fréquentation en mai étaient 15% en dessous des niveaux d'avant-crise. Les propriétaires exploitants de stations-service indépendants disent ressentir un léger frémissement depuis le mois de juin.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1.
On en vient à cet événement symboliquement très fort. Le ministère de la Justice a donc été perquisitionné.
Oui, des juges qui enquêtent sur leur ministre de tutelle, Éric Dupond-Moretti. Une vingtaine d'enquêteurs, gendarmes et magistrats déployés toute la journée d'hier, place Vendôme à Paris. Ils travaillent sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. Justin Morin, ils sont arrivés à l'improviste, bien sûr, et ça n'a pas du tout plu au ministre.
Effectivement, d'après nos informations, Éric Dupond-Moretti était extrêmement contrarié de voir débarquer les gendarmes chargés des perquisitions. Était également présent un avocat général ainsi que trois juges de la commission d'instruction qui ont, malgré la vive réaction du garde des Sceaux, pu travailler sereinement. Ils ont cherché des éléments qui concernent en particulier deux dossiers où il y a un soupçon de conflit d'intérêts. Deux dossiers dans lesquels Éric Dupond-Moretti était lui-même impliqué quand il était avocat. Dans ces deux affaires, il avait critiqué l'action de quatre juges et leur manière de travailler. Ce qui a poussé les deux syndicats de magistrats et l'association l'association Anticorps a porté plainte, c'est qu'une fois nommé garde des Sceaux, il a lancé des poursuites administratives à leur encontre. Dans cette enquête, plusieurs proches d'Éric Dupond-Moretti ont déjà été entendus. Son entourage tient à rappeler que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces procédures, mais bien sa prédécesseure, Nicole Belloubet. Lui n'a fait que suivre l'avis de ses services sans s'impliquer personnellement.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Une alerte ce matin, il y a un risque de nouvelle vague de la pandémie en Europe.
C'est l'Organisation mondiale de la santé qui s'en inquiète publiquement du fait de la forte circulation du variant Delta. Le nombre de cas de coronavirus a augmenté de 10% en Europe la semaine dernière. L'actualité de la santé ce vendredi, c'est aussi cette expertise de l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale, sur les liens entre les pesticides et les problèmes de santé. Les preuves se renforcent. Anne Le Gall, on parle là de plusieurs maladies graves, dont certains cancers.
Oui, ces chercheurs de l'INSERM ont analysé 5300 résultats d'études et ils concluent à une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et 6 maladies graves. Il s'agit de cancers de la prostate, de lymphome, de myélome et de la maladie de Parkinson pour lesquels les risques se confirment. Et cette expertise vient aussi rajouter à la liste 2 autres types de problèmes de santé que sont les troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, du raisonnement et des troubles respiratoires comme la bronchite chronique par exemple.
Anne, on imagine que certaines catégories de la population ou certaines professions sont particulièrement exposées ?
Alors le public le plus à risque, ce sont les professionnels, les agriculteurs ou les ouvriers qui manipulent régulièrement ces différents fongicides, herbicides, insecticides. Mais les chercheurs pointent aussi un risque d'exposition domestique pour ceux qui utilisent ces produits à la maison ou pour les riverains d'exploitations agricoles. Mais cette expertise de l'INSERM n'a pas permis d'isoler une liste de produits en particulier et elle n'aboutit pas non plus à des recommandations. Ce n'est pas notre métier, ont précisé les chercheurs. L'objectif de ces travaux est d'aider les décideurs politiques.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Et on y revient à 5h40 avec mon invité, le professeur Xavier Coumoul, qui dirige une équipe de l'INSERM ayant participé à cette étude.
Y a-t-il un tube de la musique classique plus connu et plus joué que les 4 saisons de Vivaldi ? Chaque violoniste a sa propre version de cet ensemble composé il y a presque 3 siècles. Hein. Et bien voici une interprétation revisitée, celle du virtuose Nemanja Radulovic, 35 ans, il est franco-serbe et il s'intéresse de près aux questions d'écologie.
Il a donc pris le parti de jouer avec un tempo extrême pour refléter, selon lui, le dérèglement climatique. Le violoniste sera ce soir en concert au Festival des Corégies d'Orange, lors d'Autriche.
Oui, Nemanja Radulovic est une rockstar dans le monde de la musique classique, toujours habillé de noir, avec des pantalons en cuir, des rangers, de longs cheveux bouclés qui balaient son visage. Chacune des 4 saisons est traduite en musique par Vivaldi, et en jouant ce soir sur le tempo et le rythme, le violoniste veut traduire le dérèglement du climat. Comme ici, les canicules qui sont de plus en plus intenses en été. Encore, on peut imaginer le froid de l'hiver qui nous glace le corps à travers ces notes de Vivaldi et le climat qui se détraque. Alors, avec Nemanja Radulovic, les puristes grincent parfois des dents, son archet virevolte, ses doigts bougent à toute vitesse. Il lui arrive de prendre aussi quelques libertés avec la partition, mais il offre toujours en concert un spectacle étonnant.
Voilà, il s'appelle Nemanja Radulovic et l'or d'Autriche nous en a parlé, elle qui est aussi violoniste.
Oui, oui. Et il sera donc corrigé d'Orange ce soir. Merci, c'était le journal de François Geffrier, 5h09 sur Europe 1. Hop, et on change d'ambiance, c'est l'heure du journal des sports. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec à la une le Tour de France et encore une victoire signée Cavendish.
Oui, le Britannique qui se sent pousser des ailes, 36 ans et une victoire à Châteauroux, ville qui lui réussit bien. C'est là qu'il l'avait gagné en 2008, sa toute première victoire sur la grande boucle. Cavendish a signé sa 32e victoire sur le Tour à 2 longueurs désormais d'Eddy Merckx. Mathieu Van Der Poel, lui, réussit à conserver son maillot jaune. C'est le 5e jour pour le petit-fils de Raymond Poulidor, qui n'est pas que petit-fils de mais aussi fils de cycliste, Harry Van Der Poel, qui lui n'a jamais porté la tunique jaune, mais qui est très fier de son fiston.
Bon, bah plus qu'à Raymond qu'à moi, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est quelque chose de... pour être fier, non ? Tout ce qu'il a fait sur le vélo, tout ce que... même moi qui j'ai fait, tout ce que Mathieu il fait, c'est quelque chose de spécial dans une famille. Donc on profite, Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier.
Un propos recueilli par Axel May. Aujourd'hui, c'est la plus longue des étapes, 249 km à avaler tout à l'heure entre Vierzon et le Creusot.
Le tennis à Wimbledon, c'est terminé pour les Français.
Comme à Wimbledon, comme à Roland-Garros, plus personne au deuxième tour. Après Gaël Monfils, c'est Richard Gasquet qui a perdu face à Roger Federer. Écoutez le Français, admiratif malgré tout de son adversaire.
C'est un joueur unique, sa qualité de balle est unique. Il va très très vite encore sur le court quand même. Quand il fait des fautes, c'est plus tennistique que physique, tu sens. Donc, sur herbe, il reste quand même impressionnant, quoi, surtout avec sa qualité de service, quoi. Et surtout sur le central, voilà, tu sens que c'est son court. C'est phénoménal, toujours, de quoi qu'il arrive à 40 ans, de revenir après deux opérations et quand même d'être à un niveau incroyable. Je ne sais pas s'il gagnera le tournoi, mais ça reste quand même un niveau exceptionnel, quoi. Ça, il n'y a pas de doute, quoi.
On sent le respect, hein, de Richard Gasquet au micro Europe 1 de Corinne Boulou.
Ouais, le respect pour Roger Federer. Encore une victoire de la Suisse. Quelle semaine. La Suisse qui, justement, joue son quart de finale à l'Euro ce soir.
Oui, c'est à 18h face à l'Espagne. Et puis à 21h, Belgique-Italie. Belle affiche également. Côté français, on commence un peu à digérer. Paul Pogba, dans une émission espagnole à la radio, a indiqué que Kylian Mbappé n'était pas responsable de l'échec des Bleus. On commence à se serrer les coudes entre joueurs. Mais pourtant, pour notre consultante Aline Riera, le joueur du Paris Saint-Germain doit faire attention à son attitude désormais.
Il peut être recadré, sans doute. Il y aura peut-être une nécessité de avec Didier Deschamps, sans doute, de le voir et de savoir où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il est capable de donner. Le fait de ne pas re-signer, le fait de ne pas savoir où il va, de ne pas être tranquille par rapport à son contrat. On dit toujours qu'avant une grande compétition, c'est bien d'avoir des joueurs qui savent ce qu'ils vont faire dans leur avenir. Là, il veut absolument reprendre la main sur tout. Son contrat, il a demandé des choses en équipe de France, il a demandé à tirer des coups de pied arrêtés, il a demandé un certain nombre de choses. Peut-être que ça doit être vu à la baisse et se concentrer uniquement sur son jeu d'abord, déjà, se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et après, peut-être qu'il pourra négocier et demander plus.
Aline Riera, consultante Europe 1 pendant l'Euro, Kylian Mbappé qui a indiqué ne pas vouloir aller au-delà de son contrat avec le Paris Saint-Germain en 2022.
Lénaïque Monnier, merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, on va découvrir maintenant le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 407 Fogo Pico. Voilà un trotteur qui traverse une grande période de forme puisque lors de ses 5 dernières tentatives, il s'est imposé par 3 fois et obtenu 2 secondes places. Dur et tenace, capable d'adopter toutes les stratégies de course, il mérite ici face à une opposition largement à sa portée un très large crédit. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la 4e course, le numéro 7, Fogo Pico.
Merci Thierry Léger et on retrouve vos pronostics du quintet, bien sûr, dans 20 minutes. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h13 sur Europe 1 dans quelques secondes. Le rappel de l'info et puis notre pressing avec Omblin Roche et Martin Lange. À tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Presque 5h15 sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Très bon réveil, le 5-7 continue. L'actualité ce matin, et c'est 130 pays dont la Suisse et la Chine qui sont tombés d'accord pour une taxation des sociétés à 15% minimum. Cela devrait notamment permettre d'imposer les géants du numérique de façon plus équitable. Mais l'Irlande ou encore la Hongrie n'ont pas signé cette déclaration. La France n'en fait pas assez pour respecter ses engagements contre le changement climatique. C'est le Conseil d'État qui le dit et qui somme le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires dans les 9 mois qui viennent. La commune de Grande-Synthe, dans le Nord, s'estimant menacée par la montée du niveau de la mer, avait saisi la justice. Et puis la guéguerre entre milliardaires, fans de l'espace, le Britannique Richard Branson annonce qu'il se rendra dès le 11 juillet dans l'espace à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic, c'est la semaine prochaine. Il devancerait ainsi de quelques jours Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Et toujours cette question lancinante dans la presse, alors que les vacances d'été s'amorcent. Comment éviter une quatrième vague de l'épidémie? C'est la une de La Montagne ou encore de La République du Centre. Le vaccin sera peut-être bientôt obligatoire pour les soignants. Voilà une piste. Et c'est l'annonce qui est mise à la une du Dauphiné Libéré, de l'Union à Reims ou encore de l'Alsace. C'est aussi la une de Varmatin et d'Aujourd'hui en France, qui explique qu'un texte de loi est bien en préparation. Le pass sanitaire est aussi à la une de Ouest-France, qui estime que voyager reste, malgré ce pass sanitaire européen, un casse-tête puisque chaque État peut fixer des règles différentes. Il faut donc vérifier chaque pays. Et puis, de la politique dans vos journaux, et c'est l'image d'une gauche façon puzzle qui est à la une de Libération. Hidalgo, Mélenchon, Jadot et les autres sur une photo déchirée des candidats à gauche, titre Libé qui raconte que chacun se positionne déjà en vue de 2022. Et en face, Emmanuel Macron. À qui tout double, ça c'est la une de la Dépêche du Midi. À qui tout double, pourquoi ? Parce que relancer la réforme des retraites est un coup de poker politique, selon le journal. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Ambline, vous nous emmenez donc sur le dance floor.
Oui, en boîte de nuit, J-7 avant la réouverture des boîtes de nuit en France. L'un des rares secteurs économiques à n'avoir jamais repris depuis le début de la pandémie, le magazine Society brosse le portrait d'une des plus grandes figures des nuits parisiennes, Jean Roc.
C'est vrai qu'il est un petit peu tôt.
Ça réveille.
On a pleuré sur le dance floor lorsqu'il a annoncé le 21 mai 2020 la fermeture de l'emblématique VIP Room sur les Champs-Élysées, ouais. L'un des clubs les plus représentatifs des années 2000. Dans la foulée, Jean Roc s'est transformé en porte-parole du clubbing français et il a enchaîné les plateaux de télé. Finalement, lui qui n'avait jamais quitté la France, sauf pour le travail et les vacances, décide de s'installer à Dubaï. Il dit en France... Je n'ai plus de boulot. La crise sanitaire n'est pas la seule fautive. Le VIP était déjà à vendre. Paris n'est plus une fête, selon Jean Roc. Les attentats, les manifestations des Gilets jaunes ont fait fuir, dit-il, une partie de sa clientèle internationale. Car il faut rappeler le principe du VIP Room, faire la fête avec le plus de gens connus possible. Les boîtes de nuit de Jean Roc sont célèbres pour être les repères des stars du monde entier. Les vedettes ont fait sa gloire.
Il était à Saint-Tropez aussi, non, Jean
Roc ? Exactement, il est toujours à Saint-Tropez. Toujours. Le VIP Room existe toujours. Bien sûr, imaginez. Jean Roc Pédry, l'enfant de Toulon, commence avec son frère dans la brasserie paternelle sur le port, ainsi que dans un cabaret spectacle dans l'arrière-pays varois, la Pitchounette, rebaptisée la Scala. Et ils ont tout compris, les frères Pédry. Ils se lèvent le matin pour distribuer des flyers, coller des affiches. Les soirées à thème qu'ils organisent sont un succès. Vient ensuite une opportunité qui va changer la vie de Jean Roc, Saint-Tropez, et son club Listeria, qui ne se videra plus jamais après la venue inespérée d'Elton John. Voilà, c'est la naissance du VIP Room, une boîte de nuit sans carré VIP, avec une cabine de DJ au centre de la piste de danse et Jean Roc à l'entrée qui, je cite le journal, claque des bises. Alors si Dubaï est le nouvel Eldorado du vedettariat, il n'a pas non plus totalement renoncé à Paris, mais ce sera un lieu plus intime et évidemment plus select. Encore plus VIP. Jean Roc est dans le magazine Society.
Bon, on note quand même vos quelques adresses chez vous dans le Var, Ambline, vous avez le...
Ah oui, de boîte de nuit ?
Oui, bah oui.
Oui, bien sûr.
Vous en avez cité deux, trois quand même.
Bon. Ah bah là, oui, bah il y a le VIP Room de Saint-Tropez.
C'est The Place to Be. Vous avez vos habitudes, voilà. Tiens, tous les deux, en fin de soirée, là, comme ça, en sortant de boîte, est-ce que vous êtes client des kebabs ?
Ah oui, ah bah ça va,
bien sûr.
Bien sûr. Clients, évidemment.
On fait autrement ? Non, mais je ne connais pas. Hein.
Les sandwichs cerises, plus généralement, vous avez forcément eu en main ces fameuses boîtes jaunes polystyrène dans laquelle on vous sert le kebab, le grec, le donneur, c'est selon, pour qu'il reste au chaud et dans lesquelles les frites vont bien ramollir si vous laissez la boîte fermée.
Bon. Oh, vous êtes connaisseur.
Bon, sachez que ces boîtes jaunes en polystyrène, c'est un désastre écologique. C'est du polystyrène expansé, c'est comme ça qu'on dit. Sachez que cette boîte met plus de 1000 ans à se dégrader dans la nature. C'est le Parisien qui s'y intéresse ce matin parce que l'usage de ces boîtes en polystyrène est maintenant interdit depuis le 1er janvier. Et alors, il y avait 6 mois de tolérance jusqu'au 30 juin pour écouler les derniers stocks. Ça veut dire que depuis hier, normalement, on ne devrait plus en voir. C'est ce qu'a cherché à vérifier le Parisien. Bah, devinez quoi ?
Il y en a encore.
Rien n'a changé. Salade, tomate, oignon, vous êtes quoi ?
Ketchup.
Sauce blanche ? Ketchup. Ok. Bim, hop, tout ça dans la boîte jaune.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas.
C'est samouraï. Non, je sais pas.
C'est samouraï. Ça marche.
Algérien. Il y en a pour tous les goûts.
Bon, bah, en tout cas, c'est toujours dans la boîte jaune, dans les kebabs parisiens. Les boîtes en polystyrène continuent d'être utilisées dans la totalité des établissements que le journal a visités, une dizaine en tout. Les boîtes étaient toujours là. Réponse de l'un des restaurateurs. Ah bon, ça ne commence pas que demain ? D'autres expliquent qu'il en reste 500 à écouler parce qu'il y a eu les fermetures, les couvre-feux, etc. Normalement, voilà, c'était juste le temps d'écouler les stocks depuis le 1er janvier, mais le journal a découvert qu'en fait, il est très facile de continuer à en commander chez les fournisseurs. Alors ces boîtes, bah oui, les clients les préfèrent, assume un autre patron, elles ne cassent pas, elles gardent tout ça au chaud. Et puis on a toujours fait comme ça, bah donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors y aura-t-il des contrôles, des sanctions ? Pas pour l'instant, répond le gouvernement, mais potentiellement les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 € pour leur enseigne. En fait, c'est comme pour les sacs plastiques de supermarché qu'on voyait partout et puis finalement qu'on a fini par voir complètement disparaître. L'idée, c'est de les voir disparaître progressivement et surtout de changer les mentalités. Tiens, vous savez combien de kebabs se vendent chaque année ?
Beaucoup.
Oui. Des centaines de millions, non ?
350 millions de kebabs par an en France.
Hein. En France ?
Oui. Voilà.
Beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup par habitant. Ouais.
Oui. Ça fait le ratio aussi. Un peu effrayant.
Les kebabs toujours en boîte, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui. Martin va prendre de la hauteur.
Exactement, parce qu'on connaît désormais le nom de la deuxième personne qui accompagnera Jeff Bezos lors du tout premier vol touristique spatial. Ça sera le 20 juillet prochain. Et c'est une femme de 82 ans, Wally Funk.
82 ans.
Exactement, qui va devenir par la même occasion la doyenne de l'espace. Alors c'est un coup de com' évidemment, mais ne vous y trompez pas. Wally Funk est plus que compétente pour la mission. C'est une pilote chevronnée qui cumule près de 20 000 heures de vol. Elle est même devenue la première inspectrice de l'agence américaine de l'aviation. Et pour elle, ce vol, c'est surtout une revanche. Dans les années 60, elle a fait partie d'un programme privé, un Mercury 13. 13 femmes qui ont passé les mêmes tests que les astronautes masculins sélectionnés pour le programme Mercury. Ce sont les premiers hommes à avoir été envoyés dans l'espace. Et Wally était meilleur qu'eux. C'est elle qui le dit, écoutez.
Ils m'ont dit que j'avais mieux réussi les exercices et surtout plus vite que les garçons. Donc je suis allée voir la NASA plusieurs fois et je leur ai dit « je veux devenir une astronaute ». Mais ils ne m'ont pas prise. Je ne pensais vraiment pas que j'irais là-haut un jour.
Et pourtant, dans exactement 18 jours, elle battra un record.
Superbe histoire. Alors on connaît donc les 3 des 4 passagers qui embarqueront à bord de cette fusée Blue Origin.
Oui, alors il y aura Jeff Bezos, bien sûr, son frère et donc Wally Funk. Le dernier passager sera le gagnant d'une grande vente aux enchères. Son nom n'a pas encore été révélé. Le vol est prévu le 20 juillet. La fusée qui s'appelle New Shepard atteindra la ligne Kármán qui marque le début de l'espace à 100 km au-dessus de nos têtes. Les passagers flotteront quelques minutes en apesanteur avant d'entamer une chute libre. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera freinée par 3 parachutes et des rétrofusées. Atterrissage prévu dans un désert du Texas. Wally Funk, une américaine de 82 ans, ira dans l'espace avec Jeff Bezos. C'est à lire sur le site de West France.
Voilà, elle a un super nom.
Oui, c'est vrai.
Wally Funk.
Tout à fait.
Ouais.
Quelques minutes en apesanteur pour des millions d'euros. Je ne sais plus le prix,
c'est colossal. C'est colossal,
effectivement. Et puis, c'est la guerre des étoiles entre milliardaires, puisque je le disais tout à l'heure. Donc, Jeff Bezos avait annoncé son vol pour le 20 juillet. Richard Branson, Virgin Atlantic, bim, il ira le 11 juillet. Voilà, une semaine avant. Le mois de l'espace qui commence, là. Merci à tous les deux pour ce pressing. Il est 5h23.
Merci. Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et c'est la dernière des doigts dans l'assiette, notre rendez-vous en direct avec nos producteurs, nos agriculteurs. Bonjour Isabelle de Radiguès.
Bonjour Sébastien.
C'est vous qui aviez ouvert le bal le jour de la rentrée. Ben voilà, vous fermez la marche, c'est comme ça. Et nous sommes dans le Calvados, donc chez vous, dans le pays d'Auge, où vous êtes éleveuse. Comment ça va ce matin ? Ça doit être beau chez vous en ce moment ?
Ah, c'est magnifique, il y a une petite brume. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux.
Ah ben, faites voir si on peut les entendre.
Ah, il y en a un.
Ah, on les entend pas
c'est
très
grâce,
bien.
C'est mais... grâce aux quelques arbres autour.
Ah oui, on les entend.
C'est... Ouais, ils sont très bruyants.
Qu'est-ce qui vous occupe sur l'exploitation en ce début d'été ?
Alors maintenant, c'est vraiment la dernière ligne droite avant les moissons. On pense commencer dans 3 semaines.
D'accord.
Le blé. Et on espère que tout sera très très beau et bon et cher.
Ouais, voilà, vendre au bon prix, c'est important. Donc c'est vrai que l'été, c'est une saison où il y a du travail. Hein. Pour vous, c'est pas les vacances là qui commencent. Hein.
Non, au contraire. Là, c'est vraiment l'aboutissement de, pour le blé, par exemple, de 8 mois d'attente. On a semé il y a 8 mois pour toutes ces cultures-là. C'est une petite année d'attente. Donc c'est vraiment là. On va voir ce que ce travail a donné.
Et alors, je crois que vous plantez aussi des arbres fruitiers chez vous.
Alors, on va convertir un petit hectare de prairie en verger très varié. Une quarantaine de fruitiers, de petits fruitiers. Ça, ce sera à l'automne.
D'accord.
Parce qu'il faut espérer de la pluie l'hiver prochain pour arroser ces arbres-là.
Qu'est-ce que vous allez planter ?
Alors, il va y avoir évidemment un petit peu de pommiers. Par exemple, il va y avoir 6 variétés différentes.
Ouais.
Dont la récolte s'échelonnera de septembre à décembre. Il faut penser à ça. Il va y avoir un peu d'abricots, des prunes, beaucoup de prunes. Je ne sais plus trop ce que j'avais mis encore. Enfin, il y a une quarantaine d'arbres qui viendront, qui seront plantés avec tuteurs, parce qu'il y a du vent. Et surtout, sous certaines bandes de ces fruitiers, on va essayer d'implanter ce qu'on appelle des vergers potagers, dont on va planter des potagers, des fleurs, des légumes sous les pommiers.
D'accord, sous les pommiers, on peut planter des légumes.
Oui, ça va nous rapprocher de ce qu'on appelle la permaculture,
ouais.
Où il faut des arbres un peu de toute taille, des arbustes. Et ça, ce sera ouvert à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent remettre les doigts dans la terre et qui voudront venir des associations, des groupes, tous ceux qui veulent. Ce sera ouvert.
Qui sera ouvert pour que les gens puissent venir cueillir, par exemple ?
Je préférais d'abord qu'ils viennent travailler.
Bah oui, d'abord entretenir oui. Et ensuite cueillir. Parce que là, j'imagine que les récoltes, c'est pas pour tout de suite. Quand on plante des arbres fruitiers, ça met un peu de temps, non ?
Oui, on pense quand même 3-4 ans.
Ah oui, 3-4 ans avant d'obtenir des
fruits.
Oui,
on ne peut pas faire ça comme ça. On ne fait pas du tout de suite.
Ils iront où ces fruits ? Du coup, voilà, vous pensez aussi les vendre en vente directe, justement, via les gens qui viendront travailler ? C'est ça l'idée ?
Oui. oui, parce que pour beaucoup de cultures, on a des contrats. Et là, on n'aura pas de contrat. Donc, il vaudra vraiment que ce soit la vente directe. Les gens viendront chercher ou... On verra. Il faut d'abord que ça produise. Hein.
Voilà. Et je connais bien votre exploitation, Isabelle. Je le rappelle quand même à nos auditeurs. Vous nous aviez accueillis chez vous au début du mois de mars pour le 5-7 spécial à la ferme dans votre salon. Merci encore pour votre accueil et pour votre fidélité au doigt dans l'assiette tout au long de cette saison.
Mais c'est moi qui vous remercie. C'était très sympa.
Et j'en profite pour remercier tous nos agriculteurs, nos agricultrices, nos éleveurs, nos cultivateurs, nos maraîchers, nos artisans. Ils sont une vingtaine à s'être relayés tout au long de la saison en direct. Je le redis chaque jour à 5h25 du matin. C'est important de le dire. Merci à toute la bande pour cette saison. On a appris beaucoup de choses grâce à vous sur le quotidien de tous ceux qui font tous les produits que nous consommons. Bel été à vous. Je vous embrasse Isabelle. Merci encore.
Merci Sébastien. Au revoir.
5h27 sur Europe 1, très bon réveil.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Natural Blues, le tube de Moby sorti en l'an 2000. Moby qui reprend ses plus grands succès dans son dernier album qui s'appelle Reprise. Et donc c'est une reprise avec Grégory Porter. Moby sur Europe 1, 5h29. On va retrouver Laurent Cabrol pour une météo un peu décevante, hein, Laurent.
Bah oui, nous parlions d'une amélioration pour cette journée de vendredi et presque d'une journée ensoleillée estivale. Ce ne sera pas le cas puisque nous avons beaucoup de nuages sur la France, beaucoup de brume, de brouillard ce matin. Et dans la journée, les nuages vont se multiplier sur la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin, qui sont des régions, même l'Auvergne, qui sont des régions disons, marquées par cette approche d'une perturbation. Car le congé de fin de semaine ne sera pas brillant, il faut bien le dire. Et la perturbation est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Alors certes, il ne pleuvra pas beaucoup aujourd'hui. aujourd'hui, nous n'aurons que quelques averses sur les régions du nord, du nord-est et de l'est. Mais dans l'ensemble, il faut bien le dire, ce sera une journée souvent très nuageuse. Malheureusement, chers amis, on attendait quand même beaucoup mieux. Température en hausse, ça c'est une consolation. 22 à Quimper cet après-midi, 23 à Caen, 24 degrés à Colmar et à Nancy. Nous aurons 26 à Clermont-Ferrand et Paris, 28 à Bordeaux et même jusqu'à 31 à Toulouse et même jusqu'à 34 degrés dans la région de Nîmes. Les Nîmois sont les plus gâtés aujourd'hui.
Bon, bah, très bien, c'est noté. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
L'Europe face à la menace du variant Delta au Portugal. Le retour du couvre-feu à Lisbonne est donc dans une quarantaine de communes. En France, le gouvernement envisage de sévir pour renforcer le processus de vaccination avec une possible obligation à la clé, notamment pour les soignants. Dans ce journal aussi, un accord historique pour un impôt mondial sur les sociétés. La stratégie de Marine Le Pen contestée à la veille du congrès de son parti. Et l'Euro de foot, premier quart de finale. Ce soir, on s'intéressera à la rencontre entre la Belgique et l'Italie.
Après le journal, on s'arrête sur les détails d'une importante étude publiée par l'INSERM sur les effets de l'exposition aux pesticides. Étude qui confirme le lien avec plusieurs maladies. Mon invité, le professeur Xavier Coumoul de l'Université de Paris, y a participé. Il nous présente les résultats dans 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un variant préoccupant et une situation qui évolue rapidement. La division européenne de l'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée hier d'un risque de reprise de l'épidémie à la faveur notamment de l'augmentation des voyages.
Et comme une preuve de l'aggravation de la situation sanitaire sur le vieux continent, le Portugal a annoncé hier soir l'instauration de nouvelles restrictions. Henri de Laguérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la péninsule ibérique. La première de ces restrictions, c'est le retour du couvre-feu.
Oui, dès ce soir, il sera interdit de sortir de chez soi entre 23h et 5h du matin. La mesure concerne 45 municipalités, dont Porto et Lisbonne, la capitale. Il y a quelques semaines encore, le Portugal faisait partie des pays qui enregistraient le moins de cas en Europe, mais la situation s'est dégradée. Hier, on a recensé plus de 2000 nouveaux cas, une première depuis la mi-février. Et derrière cette reprise de l'épidémie, il y a le variant Delta devenu prédominant. Les jeunes sont les plus touchés, la vaccination ne leur a pas encore été ouverte. Le couvre-feu s'applique à tout le monde et il n'y a pas d'exception pour les personnes vaccinées notamment. Il sera par ailleurs interdit aux habitants de sortir de Lisbonne et sa métropole ce week-end. Ces mesures interviennent quelques jours après la fermeture anticipée des écoles dans le sud du pays, dans l'Algarve. Le gouvernement appelle à la plus grande prudence, mais il estime cependant que la situation est loin d'être aussi grave qu'à l'hiver dernier.
Et le variant Delta n'inquiète pas qu'au Portugal. En France, le gouvernement anticipe déjà une aggravation de la situation. Un projet de loi qui instaurerait une obligation vaccinale est en préparation et sera discutée avec les élus, notamment les chefs de groupe parlementaires, destinataires déjà d'une lettre du Premier ministre pour Europe 1, Louis Dragnel.
Dans cette lettre, la crainte est clairement exprimée. Il est de notre responsabilité de préparer le pays à la possibilité d'un rebond épidémique à la rentrée. Le Premier ministre va droit au but. Il demande que soit posé le débat sur la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi éventuellement pour l'ensemble des Français. Autre interrogation, faut-il instaurer une obligation d'isolement assortie de sanctions ? Le ton est donc à la dramatisation, et s'il doit prendre une décision difficile, Jean Castex veut absolument parvenir à un consensus politique, obtenir le soutien des oppositions dans ce nouveau virage sanitaire. C'est tout l'objet de ce courrier.
Les précisions de Louis Dragnel pour Europe 1.
5h34, un jour historique pour les États-Unis, un pas colossal pour l'Allemagne. Réaction hier à l'annonce d'un accord sur la mise en place d'un impôt mondial sur les entreprises.
130 pays se sont mis d'accord sous l'égide de l'OCDE sur le principe d'une taxation d'au moins 15%. La mesure devrait concerner une centaine d'entreprises et rapporter des milliards. Carole Ferry.
C'est ça, les entreprises concernées sont les multinationales les plus rentables au monde, mais qui généralement payent le moins d'impôts. Cela concerne bien sûr les GAFA, Google, Facebook, Apple ou encore Amazon, qui sera bien dans les mailles du filet. Les entreprises du numérique ne sont toutefois pas les seules concernées. Le géant du luxe français LVMH, par exemple, est également dans la cible. L'accord prévoit donc de taxer les bénéfices de ces entreprises à au moins 15% et de redistribuer les gains à l'ensemble des pays dans lesquels elles ont des activités. L'aboutissement de plusieurs années de bataille pour Pascal Saint-Amand, responsable des questions fiscales à l'OCDE.
Les entreprises, elles payent un impôt sur les bénéfices, sur les profits, et hélas, elles l'ont payé de moins en moins avec la globalisation qui n'était pas régulée fiscalement. Aujourd'hui, on met fin à ce jeu-là et on dit les profits des entreprises, où qu'ils soient localisés dans le monde, seront au moins taxés à 15%. Filet de sécurité pour que ça aille plus dans les paradis fiscaux.
La France espère ainsi récupérer 5 à 10 milliards d'euros par an, une mesure qui ne devrait toutefois pas entrer en application avant au moins 2023.
La politique avec un congrès mouvementé en vue ce week-end à Perpignan pour le Rassemblement national.
Après l'échec des régionales et des départementales, 30 élus perdus, Marine Le Pen va devoir remobiliser ses troupes alors que des doutes et des critiques sur sa stratégie se font entendre. Pour Europe 1, Claudia Bertram.
Si Marine Le Pen sera sans surprise réélue présidente du RN puisqu'elle est la seule candidate, le congrès sera plus agité que prévu. Des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de dédiabolisation et d'ouverture à des candidats extérieurs au RN. Le délégué du parti dans l'Hérault, Bruno Le Rognon, a démissionné au lendemain des élections.
La raclée électorale qu'on vient de se prendre et la manifestation que cette stratégie d'ouverture a ses limites. On oublie qu'il y a une soustraction à faire derrière tout ça. On perd nos militants, nos adhérents qui sont attachés à nos valeurs, à notre famille politique et qui ne s'y retrouvent pas dans ces personnages qui, du jour au lendemain, se trouvent tête de file de nos listes.
Le maire de Moissac, Romain Lopez, lui, défend la ligne d'ouverture mais regrette les méthodes du parti.
Il y a une verticalité un peu infantilisante entre le siège en Nanterre et les fédérations. Et des fois, soit des consignes, soit certaines stratégies imposées, soit en contradiction avec les réalités locales.
Cette semaine, les critiques sont aussi venues de Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du parti. Le RN doit retrouver sa virilité et faire vivre ses thèmes fétiches, estime le père de Marine Le Pen. Dans l'entourage de la dirigeante, on sait que les discussions autour de la ligne s'inviteront ce week-end, mais on assure, hors de question de retourner en arrière.
Après les élections dimanche, la désignation des présidents de région. Aujourd'hui, hier, le processus dans les départements a permis à la droite de renforcer sa majorité dans 72 départements contre 70 jusque-là.
La perquisition s'est prolongée jusqu'à minuit. Les magistrats de la Cour de justice de la République auront passé 15 heures au total au ministère de la Justice.
Dans le cadre de l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts visant le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, après la plainte de l'association Anticor et de 3 syndicats de magistrats concernant des investigations administratives demandées par le ministre sur des affaires dans lesquelles il était impliqué auparavant en tant qu'avocat.
La justice toujours avec la suite du procès 3ADEC devant les assises de Loire-Atlantique. Des experts psychiatres entendus aujourd'hui au lendemain de l'audition de la mère de l'accusé, René 3ADEC.
Qui est aussi la maman d'une des victimes. Compte tenu de son état de santé, elle a témoigné en visioconférence depuis le tribunal de Quimper près de chez elle. Audience suivie par Charles Guyard pour Europe 1.
Au procès du meurtrier présumé de son fils et de la famille de celui-ci, René 3ADEC a choisi son camp. Elle ne s'est pas constituée partie civile. Certes, elle a toujours trouvé l'accusé, Hubert Kawissin, sympathique et on sent qu'elle n'ose pas l'accabler. Mais c'est aussi parce que sa fille, Lydie 3ADEC, est également présente dans le box et qu'après cette tragédie, c'est tout ce qui lui reste comme famille. « Je ne sais pas ce qu'elle a fait », assure la vieille dame de 79 ans à la cour. « Le ménage sur la scène de crime », suggère la partie civile. « Non, jamais », répond-elle fermement. Dans l'ensemble, son propos est aussi décousu que cette histoire d'or soi-disant découvert à Brest par son époux, aujourd'hui décédé. « Il y en avait beaucoup », s'enquiert la présidente. « Je n'ai rien vu, mon mari avait mis ça au grenier et je ne pouvais pas monter à cause de mes jambes. » Alors elle raconte qu'un jour, Pascal et Brigitte 3ADEC auraient profité de son absence pour venir depuis Nantes dérober le trésor. « Mais comment le savez-vous? Ils avaient changé de train de vie, ils s'achetaient des voitures », restitue-t-elle aujourd'hui. En 2017, elle finit par se faire une raison, l'or n'existe pas puisque les enquêteurs n'ont rien trouvé. Entre-temps, son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants ont été tués. Quant à leur voiture, ils les avaient achetés d'occasion. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Enfin, le football et le début ce soir des quarts de finale de l'Euro.
Sans la France, qui soutiendrez-vous? Faites votre choix ce soir. Suisse-Espagne à partir de 18h.
L'Espagne.
Et Belgique-Italie à partir de 21h. Peut-être que certains préféreront les équipes francophones. En tout cas, ce Belgique-Italie se déroule à Munich où, malgré la météo maussade, les supporters belges commencent à arriver. Comme vous avez pu le constater pour Europe 1, Cyril de la Morinerie.
Oui, au pied de la cathédrale de Munich, dans un climat automnal. Une cinquantaine de supporters belges se tiennent chaud. Bière à la main, ces fans des Diables Rouges commencent à mettre de l'ambiance en pensant aux voisins et rivales français d'ores et déjà éliminés.
On se fait chambrer, c'est vrai, par les Français, parce qu'on n'a pas d'étoiles sur le maillot. Si on peut une fois gagner un grand tournoi, on fêtera ça pendant très longtemps. On espère que les Français nous supporteront jusqu'au bout.
D'autant qu'un certain Thierry Henry, champion du monde avec la France, fait partie du staff de la Belgique, où il est en charge des attaquants.
C'est vrai que c'était un des meilleurs attaquants du monde, même si c'est un Français. C'est bizarre en fait qu'il est dans l'équipe des Belges et pas des Français.
En tout cas, se rendre à Munich fut pour les supporters belges un vrai parcours du combattant. Difficile de trouver des billets, passer les tests, avoir les attestations pour franchir la frontière. Eric, qui vient de Namur, a fait 700 km et espère voir son équipe triompher des Italiens.
Ce sera du 50-50. Un petit avantage pour notre attaquant Lukaku, qui connaît parfaitement le championnat italien. Pronostic, je vois quand même une victoire de la Belgique, 2-1, voilà.
Et ce soir, il y aura 1500 supporters belges, prêts à entonner la Brabançonne.
Cyril de la Morinerie pour ce Belgique-Italie que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, émission spéciale autour de Lionel Rosso dès 20h. Un mot du Tour de France, aujourd'hui l'étape la plus longue, près de 250 km entre Vierzon et Le Creusot avec Mathieu Van Der Poel, toujours en jaune.
Ce qui est bien, c'est qu'avec Cyril de la Morinerie, on fait le tour du monde des champs de supporters.
Exactement.
Alors, on les a tous. Et vous vivez bien sûr 7 euros sur Europe 1 tous les soirs, émission spéciale dès 20h. C'était le journal de Marion Calais sur Europe 1, 6h-20. Et tout de suite, les pronostics du Quintet avec vous, Thierry Léger.
C'est sur l'hippodrome de Vincennes en semi-nocturne que se disputera ce Quintet. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Armour As, le numéro 8, un Italien désormais entraîné en France par Jean-Michel Bazire et qui reste sur une probante deuxième place le 11 juin à Vincennes. Et s'il répète cette performance, il devrait pouvoir remporter sa première victoire en France. L'opposition sera constituée des numéros 6, Gold Ménancourt, sérieux et venant de très bien faire en dernier lieu sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir. 5. Andy Bourbon, désormais proche de son meilleur niveau, après deux bonnes courses de rentrée suite à des vacances bien méritées. Et 4. Holy Partner, très confirmé sur ce type de tracé de vitesse. Enfin, les numéros 1, Galileo Bello, 10. Brillant Ferme, 3. Jacinto Bello et 2. Gin Tonic Duran compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 6, 5, 4, As, 10, 3 et 2.
Merci Thierry Léger et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr. Il est 5h42.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et nous nous arrêtons ce matin sur les effets des pesticides sur notre santé. Bonjour Xavier Coumoul.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Paris. Vous dirigez aussi une équipe à l'INSERM qui a participé à une grande étude, la plus exhaustive à ce jour, sur les effets de l'exposition aux pesticides. Plus de 2 ans de travaux. Alors, qu'avez-vous regardé et pourquoi ces résultats sont si importants ?
Alors, on a examiné près de 5300 documents. On a examiné la littérature scientifique épidémiologique qui s'intéresse à l'effet des pesticides sur les populations, notamment des populations d'agriculteurs qui utilisent les pesticides, mais aussi de personnes qui sont en contact avec les pesticides du fait de leur proximité avec des zones agricoles et du fait également de l'exposition potentielle de fœtus, d'embryons, donc de femmes enceintes, à ces pesticides. Et puis on a examiné la toxicologie de ces molécules avec typiquement des études qui sont plus mécanistiques avec des modèles cellulaires, des modèles animaux. Donc vraiment un versant épidémiologique et puis un versant, je dirais, plus toxicologique, mécanistique. Et puis aussi, il y avait une partie sur l'exposition à ces molécules.
Les conclusions sont assez inquiétantes, hein, voire alarmistes, parce qu'on parle de cancer, on parle de lymphome, on parle de troubles dépressifs, de maladies neurodégénératives. Alors on va essayer d'être le plus clair possible, hein, sans tomber dans une psychose. D'abord, on parle de quels produits ? Est-ce que ce sont des produits qui sont extrêmement communs et qui sont utilisés partout ?
Alors, on parle de produits qui, pour certains d'entre eux, sont identifiés par famille, qui sont de moins en moins utilisés pour certains d'entre eux, les organophosphorés. Et pour certains d'entre eux, toujours encore très utilisés, par exemple les pyréthrinoïdes. On parle également de molécules qui ne sont plus utilisées depuis très longtemps, qui sont persistantes dans l'environnement parce qu'elles se dégradent difficilement. Et de ce fait, on les retrouve sur du long terme. Et puis dans certains cas, on n'a pas été capable de distinguer des pesticides. On a tout simplement dit qu'il y avait un niveau de preuve fort avec certaines pathologies et que ce niveau était sans distinction pour certains pesticides.
Alors quel est le niveau de risque quand on parle de toutes ces maladies que je viens de citer ? Quel est le niveau de risque et comment se fait l'exposition ? Est-ce que ça ne concerne que les agriculteurs qui les manipulent ou est-ce que ça va au-delà de ça ?
Évidemment, les agriculteurs sont les plus exposés, mais il y a également des personnes qui ne manipulent pas directement les pesticides et qui sont exposées parce qu'ils sont proches de zones agricoles. Pour certains d'entre eux, ce sont des femmes enceintes. Donc, du coup, vous avez des enfants qui sont, pendant leur développement embryonnaire et fœtal, exposés à ces pesticides, on va dire presque indirectement, mais en fait directement, du fait de la grossesse.
Comment vous qualifiez le niveau de risque ?
Le niveau de risque est de trois types. On a typiquement sur les études épidémiologiques identifié des présomptions de lien avec les pathologies et on les a dites soit fortes, soit moyennes, soit faibles. Et lorsqu'on a une présomption forte de lien, on est aussi allé regarder au niveau toxicologique si la molécule sur des tests cellulaires animaux provoquait des pathologies ou en tout cas des signaux qui sont un peu identiques à ceux qu'on suspecte chez l'homme. Et de ce fait, ça renforce potentiellement l'idée que ces molécules provoquent l'événement de santé qu'on constate en épidémiologie. Il faut bien rappeler une chose, c'est qu'en épidémiologie, on fait des corrélations. On n'est pas complètement sûr qu'il y a un lien causal et la toxicologie aide à définir ce lien causal.
Donc, et là, vous avez démontré avec cette étude un lien de cause à effet entre l'exposition à ces pesticides et les maladies qu'on a citées qui vont jusqu'au cancer ou au lymphome.
Tout à fait. Sur les adultes, une présomption forte de lien pour 6 pathologies. Et parmi ces 6 pathologies, il y en a 2 nouvelles par rapport à l'expertise qu'on avait menée en 2013. Pour rappel, la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate, évidemment uniquement chez l'homme, le lymphome non-Hodgkinien et le myélome multiple, ce sont des cancers du sang. Et puis 2 nouvelles pathologies, les troubles cognitifs chez l'adulte. Alors, cognitif, ça signifie par exemple l'attention, la concentration, la capacité intellectuelle. Et puis également des pathologies respiratoires, pour citer la dernière, ce qu'on appelle la BPCO. C'est bronchopneumopathie chronique obstructive, mais on a entendu les mots importants, les bronches, le poumon. Et c'est une pathologie qui crée une gêne respiratoire, tout comme la bronchite chronique. Ça, c'est chez l'adulte. Et chez les enfants, on identifie des altérations des capacités motrices, cognitives et sensorielles, les troubles du comportement, en particulier de l'anxiété, et puis par ailleurs des tumeurs, tumeurs du système nerveux central, quels que soient les pesticides, s'ils sont exposés pendant la période périnatale, et des leucémies dans le cadre d'une exposition domestique aux pesticides, là encore sans distinction.
Xavier Coumoul, qu'il y a un fait nouveau qui est pointé dans cette étude publiée par l'INSERM sur les pesticides, c'est le lien qui est évoqué avec l'endométriose, et ça c'est nouveau, c'est cette maladie qui touche 5 à 10% des femmes. Là aussi, un lien établi entre l'exposition aux pesticides et cette maladie.
Alors, pour ce qui est de l'endométriose, on est encore sur un niveau de preuve qui reste faible. On a un certain nombre de preuves épidémiologiques qui sont, entre guillemets, de plus en plus concordantes également, mais on a encore assez peu de données. Et en fait, ça, c'est important de le préciser, parfois, on n'est pas capable de définir un niveau de preuve fort pour une pathologie, tout simplement parce qu'elle demeure encore assez peu étudiée.
Alors voilà pour le constat. Quelle solution, vous voyez ? Il faudrait supprimer entièrement tous les pesticides ?
On n'a pas fait de recommandation dans l'expertise, donc je vais me prononcer en tant un petit peu à l'extérieur de cette expertise d'un point de vue personnel. C'est vrai que lorsqu'on évoque un agriculteur et que cet agriculteur manipule des pesticides, on peut dire de manière nette qu'il y a une présomption de lien forte avec toutes les pathologies mentionnées préalablement, pour certaines d'entre elles qui ne peuvent pas soigner. Donc il faudrait en tous les cas les éliminer d'un coup comme ça du jour au lendemain. C'est évidemment quelque chose qui est probablement très très difficile à faire et il faut que la société s'empare de ce sujet et mesure le bénéfice, entre guillemets, qu'il y a à utiliser ces pesticides d'un point de vue social, économique, etc. Et évidemment, les désavantages d'un point de vue sanitaire. Il est évident qu'il y a un problème du point de vue sanitaire. Et donc, je pense qu'il faut au moins avoir une approche un peu courageuse d'essayer d'inciter les agriculteurs qui ne sont pas coupables de cette utilisation, mais qui sont responsables dans toute une chaîne socio-économique de cette utilisation, et le consommateur aussi, et les producteurs de pesticides aussi, de réfléchir sur l'usage de ces molécules et d'essayer de définir des stratégies pour réduire l'exposition des personnes, parce que là, clairement, il y a des risques très graves pour la santé de ces personnes, mais aussi de leurs proches et de la descendance de ces personnes.
Et voilà donc de quoi alimenter ce débat avec cette grande étude que publie l'INSERM et que vous nous avez détaillée un petit peu ce matin. Merci à vous, Xavier Coumoul. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Paris et que vous dirigez une équipe de l'INSERM qui a participé à cette étude. Bonne journée à vous, bon week-end.
Un grand merci à vous et bonne journée aussi.
Europe 1.
Il est 5h49 sur Europe 1, c'est l'heure de la France bouge. Nous allons en région chaque matin. Où est-ce qu'on va ce matin, Lénaïque Monnier ?
À Lourdes, où une nouvelle colocation senior ouvrira au mois de septembre. Friends, version 3e âge, c'est recommandé par les gériatres.
Et on explore les réseaux sociaux avec Martin Lange. Restez avec nous, le 5-7 continue. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'actualité ce matin et les premiers départs en vacances. Ce week-end, ce vendredi est classé orange sur toute la France, rouge en Ile-de-France. Dans les gares, les syndicats qui avaient appelé à la grève samedi et dimanche sur les lignes TGV Ouigo ont finalement levé leur préavis. Ils ont notamment obtenu une prime pour les contrôleurs. Une enquête ouverte en France pour recel de crimes contre l'humanité. Elle vise quatre géants de l'habillement, dont Uniqlo et aussi la maison mère de Zara. Les groupes sont accusés de profiter du travail forcé des Ouïghours en Chine. Et puis 1 million de personnes évacuées dans l'ouest du Canada, la région en proie à des incendies après les fortes chaleurs. Le village de Lytton, où un record de 49,6 degrés a été atteint, est détruit à 90%.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge et chaque matin des initiatives positives que nous mettons en lumière à travers la France. Lénaïque Monnier, nous sommes donc dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, c'est ça, à Lourdes précisément. On sait très bien que rester chez soi à un certain âge, eh bien, ce n'est pas toujours un choix. Et quand ce n'est plus possible, il faut se résigner à quitter sa maison. Jusqu'à présent, il y avait assez peu d'options et la plupart du temps, les personnes plus ou moins âgées se retrouvaient dans des EHPAD. Il existe une troisième voie, de plus en plus fréquente, hein, comme ce domicile partagé qui ouvrira ses portes à Lourdes donc, au mois de septembre.
Domicile partagé, donc une sorte de colocation du troisième âge, à quoi ça va ressembler ?
Alors c'est un peu comme pour les étudiants, un peu plus confortable, un peu plus grand. 400 mètres carrés là pour 8 résidents, chacun a ses propres toilettes et sa propre salle de bain. Tout le monde se partage le reste, la cuisine, le salon. La grosse différence en fait avec une maison de retraite, c'est que personne ne vient vous dire par exemple à quelle heure se lever, à quelle heure se coucher. Quand on discute avec des personnes qui ne sont pas grabataires dans les EHPAD, elles racontent souvent cette gêne est trop assistée dans un premier temps. Évidemment, il y a quand même un auxiliaire de vie 24 heures sur 24, mais c'est une alternative que les gériatres ont tendance à encourager de plus en plus.
Et c'est pour ça que ces colocs seniors se développent de plus en plus ?
Oui, parce que les EHPAD ont moins la cote. La crise sanitaire, le grand isolement des anciens n'a pas arrangé leur image. Plusieurs colocations arrivent ainsi prochainement à Saint-Cloud en Ile-de-France, à Aix-en-Provence ou encore à Marseille. Et à Paris, c'est nouveau également, dans le 9e arrondissement. C'est une coloc senior LGBT qui a été inaugurée la semaine dernière. On peut passer par des associations spécialisées ou des sites internet pour trouver son coloc idéal.
Merci à vous, Lénaïque Monnier. Merci d'avoir traqué au quotidien toutes ces belles initiatives.
Bah merci aux initiatives françaises.
À travers la France,
c'est un vrai plaisir.
J'y tenais d'être en région chaque matin avec ceux qui ont des idées et qui se bougent pour changer les choses. Et puis on salue l'ami Jérôme Lacroix. J'espère qu'il nous écoute encore parce que c'est lui qui avait démarré la saison sur cette chronique. Martin Lange, c'est à vous. On va regarder ce qui anime les réseaux sociaux.
Eh bien, c'est l'histoire de Luca Lautenbach, son nom ne vous dit sûrement rien, pourtant vous avez peut-être vu sa photo. Alors je vais vous rappeler de mauvais souvenirs Sébastien, mais Luca Lautenbach, c'est ce supporter suisse pris en photo au bord des larmes à la 87e minute du match contre la France, puis exultant de joie 4 minutes plus tard après l'égalisation de la Nati. Deux photos postées par un Britannique sur les réseaux sociaux et qui ont fait le tour du monde, reprises jusqu'à la mairie de Londres par Sadiq Khan. Elles sont même devenues ce qu'on appelle un mème, ce sont ces images qui reviennent inlassablement sur les réseaux pour faire de l'humour. Là par exemple, le contraste entre les deux images peut parfaitement illustrer notre état d'esprit lundi matin par rapport au vendredi.
Effectivement, surtout donc un vendredi comme aujourd'hui. Mais alors, il est qui est-il ce fameux Luca Lautenbach?
Et bien maintenant c'est assez facile de vous le présenter, je dois dire, puisque les médias du monde entier se sont intéressés à lui. Le tabloïd suisse Blick, qui l'a retrouvé le premier à la descente de l'aéroport, puis le Parisien en France, le Spiegel en Allemagne, un site polonais, un magazine japonais et même un site mexicain qui a retracé le parcours du FC Rebeuvilliers. C'est le club amateur de Luca, qui est donc footballeur à ses heures perdues. Sinon, il a 28 ans, il est jurassien, travaille dans le commerce, il fait aussi quelques piges dans un journal local. Mais ne pensez pas que cette soudaine notoriété va changer sa vie. Luca garde les yeux rivés sur ses champions et une pointe d'humour aussi.
Je suis surtout content que l'équipe ait gagné. Je suis juste un fan normal. Et puis, ce qui compte, c'est que la Suisse soit en quart de finale. Puis, je suis super content pour tout le pays, pour tous les Suisses et les Suissesses.
Tu as reçu des invitations pour le prochain jeu déjà?
Alors, pas encore. S'il y a des gens qui veulent me payer le vol, c'est volontiers.
Tant qu'à faire.
Et figurez-vous que cette demande n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque la compagnie aérienne suisse a annoncé qu'elle lui offrait le billet pour Saint-Pétersbourg, où la Suisse affronte l'Espagne ce soir.
voilà, c'est fou.
Bah, il en bon faut match peu, à Luca.
Il a beaucoup de chance. Il en faut peu, finalement. Une photo dans les tribunes et le voilà invité au quart de finale. On salue nos amis suisses donc, qui jouent contre l'Espagne tout à l'heure. Merci Martin Lange et merci pour toute cette saison. Un plaisir tous les matins de travailler avec vous. 5h54 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous à 14h avec Christophe Ondelat, comme chaque jour à 14h. Et dès maintenant, vous retrouvez son histoire en podcast sur europe1.fr. L'histoire du jour, c'est la tuerie de Saint-Andéol en 1995. Quatre membres d'une même famille sont assassinés à Saint-Andéol-le-Château. C'est dans la région de Lyon. L'assassin est alors incapable d'avouer par narcissisme. Le récit dans Ondelat raconte donc en podcast dès maintenant sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
6h-5. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Mother Nature, une dernière en musique avec vous Fanny Agostini ce matin pour notre planète, parce que vous avez un message avant les vacances. La musique peut nous faire devenir plus écolo.
Totalement. D'ailleurs, le docteur Jimmy Mohamed nous le disait lui-même il y a quelques semaines, la musique a une forte influence sur l'humain au point de modifier notre humeur, de nous détendre et de nous rendre heureux, en permettant notamment à notre cerveau de sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Et si la musique pouvait de la même manière stimuler l'amour de la nature et nourrir l'envie de la protéger ?
C'est vrai qu'il y a des morceaux qui ont un fort pouvoir de sensibilisation.
Il y en a plein. Prenez par exemple « Il faut que tu respires » de Mickey 3D, le célèbre hymne de nos campagnes de Trio ou encore « Je suis un homme » de Zazie, qui donne à réfléchir sur la condition humaine et sur notre place sur cette planète. Il y a aussi Muse, « Isolated System »,« Aux arbres citoyens » de Yannick Noah ou très récemment « Mother Nature » d'Angélique Kidjo et de Sting, dont le clip a été réalisé par Yann Arthus Bertrand. Tandis que certains dressent un constat peu reluisant et pessimiste sur l'avenir de la Terre, d'autres lancent au contraire une invitation à passer à l'action.
Voilà Angélique Kidjo qu'on entendait à l'instant. Et à l'instar du reste de la société, c'est vrai que le monde de la musique s'engage de plus en plus.
Musicalement, oui, à travers des paroles engagées, mais aussi, ça c'est nouveau, dans le comportement et mode de vie des chanteurs eux-mêmes. On peut citer le collectif d'artistes engagés baptisé The Freaks, qui compte une soixantaine de personnalités comme Calogero, Mathieu Chédid, Nolwenn Leroy, Yael Naïm, Zazie et même des humoristes comme McFly. Tous s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la biodiversité en utilisant leur notoriété pour faire bouger massivement les lignes. Cette meute d'artistes a été constituée par Sam et Fra du groupe de rock Les Chacaponques, avec l'appui de la fondation Nicolas Hulot. Fra, qui avait sévèrement marqué les esprits en prenant la parole aux Victoires de la Musique en 2019 sur France 2 en direct. Fra, avec beaucoup de courage et de conviction, et aussi un peu de gravité, prend la parole en plein prime et il nous invite à agir maintenant. Do It Now, c'est d'ailleurs la parodie de Bella Ciao, cette musique qui est devenue l'hymne des marche pour le climat et qui, j'espère, vous restera dans la tête tout l'été.
Now, c'est donc cette parodie de Bella Ciao. Merci Fanny Agostini pour ce rendez-vous avec notre planète. Chaque matin, depuis le début de la saison, on a essayé de mettre en avant des solutions avec vous. Très belle année, très bel été, Fanny Agostini. Merci.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous, vous êtes sur Europe 1, ravi de vous accompagner au réveil. Courage, c'est le réveil sonne. Nous sommes le vendredi 2 juillet, c'est la dernière de la saison pour le 5-7, avant une matinale estivale qui, sachez-le, commencera à 7h-là, dès lundi, avec Théo Manval, 6h-9h. Vendredi 2 juillet, première vague de départ en vacances. Les professionnels sont prêts à accueillir les touristes, enfin presque prêts parce qu'ils recrutent. On va parler de job d'été ce matin. Beaucoup, beaucoup d'offres de dernière minute en ce moment, notamment pour les étudiants qui en ont bien besoin de ces emplois saisonniers après une année sans pouvoir travailler. Alors, quels emplois, où les trouver? Tous les conseils à 6h40 tout à l'heure avec mon invité Étienne Gless du magazine L'Étudiant. 5h59, la météo, Laurent Cabrol, et c'est moins bien que prévu ce matin.
Oui, c'est un petit peu déçu. Hein. J'avais dit à nos amis auditeurs, je leur avais dit, bon ben, ça y est, vendredi, ce sera une journée avant le congé de fin de semaine qui n'est pas terrible, ce sera une journée de soleil. Mais malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de brume, de brouillard ce matin, et puis j'ai l'impression que ces brumes et ces brouillards, compte tenu du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vent, vont rester, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de pluie, hein, ou s'il y a de la pluie, c'est vraiment très, 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 très rare. Mais nous aurons quand même un voile, une sorte de voile, voilà, sur le soleil, de sorte que bah, il ne fera pas très, très beau, enfin, ce ne sera pas aussi rayonnant que je le pensais. Les brouillards sont présents en ce moment vers Caen, vers Bourges, vers Rouen, vers Langres, pas Bourges, Rouen, Langres, Luxeuil, Amiens. Et puis, des éclaircies ce matin sont plus généreuses sur le centre, la Lorraine-Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et la région PACA. Les éclaircies cet après-midi, on en trouvera quand même, bien que le ciel soit voilé, on en trouvera sur le Béarn, le Piémont pyrénéen et le bassin méditerranéen. Voilà, les températures sont quand même beaucoup plus sympathiques que la couleur du ciel, entre 23 et 34.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.